Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Comme dans un décor de film d'espionnage, deux corps gisent sur la neige sale des trottoirs de Moscou. Un haut gradé de l'armée russe et son assistant ont été tués mardi matin au pied de cet immeuble. La scène a été filmée. À 6 heures, le général Kirillov quitte son domicile lorsqu'une trottinette piégée explose. Chargé de la défense biologique, chimique et radiologique des forces russes, Igor Kirillov était soupçonné d'avoir déployé des armes chimiques en Ukraine. Une source des services secrets ukrainiens a revendiqué l'assassinat et un ressortissant ouzbek a été arrêté par les autorités russes qui ne décollèrent pas.
Les organisateurs et les auteurs de l'assassinat d'Igor Kirillov seront tous retrouvés et punis. Responsable de Kiev et russophobe de tous bords, sachez que vous ne pouvez pas nous intimider.
Cet assassinat dans une capitale russe ultra sécurisée illustre la guerre de l'ombre à laquelle se livrent Kiev et Moscou. Tandis qu'au grand jour, l'Ukraine, en difficulté sur le front, presse européen et américain, a œuvré pour faire taire les armes, comme ce matin à Bruxelles.
Nous avons besoin de cette unité pour parvenir à la paix. Je pense que ce n'est qu'ensemble que les États-Unis et l'Europe peuvent réellement arrêter Poutine et sauver l'Ukraine.
Ces dernières heures, lors de sa grande conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine s'est dit ouvert à des négociations et à une rencontre avec le président américain, Donald Trump.
Je ne sais pas quand je vais le voir. Il ne dit rien à ce sujet. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 4 ans. Je suis prêt à le faire, bien sûr, à tout moment.
Alors Donald Trump parviendra-t-il à asseoir comme il le souhaite Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à la table des négociations? Que cherche l'Ukraine en frappant un haut gradé en plein cœur de Moscou? Cette stratégie peut-elle se révéler payante ou risquée?
Nos trois invités pour ce débat, général Michel Yakovlev, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Ce nom nous dit que vous êtes vraisemblablement d'origine russe.
Lointaine.
Oui. Lointaine. Et vous êtes en tout cas un ancien général haut gradé à l'OTAN. Selon vous, l'assassinat ciblé du général Kirillov, général russe donc, est une façon de faire la guerre à des criminels reconnus et à des cibles militaires légitimes. Tout est bon à prendre avant l'arrivée de Donald Trump du point de vue donc des Ukrainiens, de Volodymyr Zelensky, d'autant que la Russie est en grande difficulté, ajoutez-vous, sur son front intérieur avec une économie qui est en train de se gripper. On en parlera au cours de notre débat. À côté de vous, Claude Blanche-Maison, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France en Russie. Vous avez été ambassadeur en Russie de 2000 à 2003 et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Vivre avec Poutine », ça reste une expression bien sûr, aux éditions Temporis. Et selon vous, cet attentat est un grand succès des Ukrainiens, une stratégie nécessaire alors que les négociations approchent, et un message à l'establishment russe pour dire que personne n'est à l'abri d'une attaque du même type. Et à côté de vous, Joséphine Staron, bonsoir madame,
bonsoir.
Directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Dernier essai, Europe, la solidarité contre le naufrage, aux éditions Sinopia, justement. Selon vous, c'est un beaucoup d'éclat ukrainien dont les services de renseignement se sont considérablement perfectionnés ces derniers mois, on y reviendra, mais cela ne va pas changer les difficultés des Ukrainiens, en l'occurrence sur le front. Et on démarre avec le débat, avec la déclaration
oui,
du jour, Benjamin.
Oui, qu'elle a signé donc Vladimir Poutine, hein, qui a reconnu une défaite après ce double assassinat ciblé d'hommes clés de son régime. « Nos services de renseignement ont laissé passer ces attaques », a donc déclaré le président russe. « Nous ne devons pas permettre de telles failles », c'était lors de sa grande conférence de presse annuelle. Général Yakovlev, c'est assez rare quand même un aveu de faiblesse de la part de Poutine en direct à la télévision.
Oui, et ça montre que le timing ukrainien était plutôt bien trouvé.
Mmh.
C'est aussi un signal pour tous les autres criminels. Les Ukrainiens ont incriminé pas mal de généraux et de colonels pour des meurtres sur des prisonniers de guerre,
des crimes de guerre.
Donc il y a un paquet de gens qui du coup vont essayer de se renseigner, je pense, pour voir s'ils ne sont pas sur la liste.
Parce que pensez qu'il peut y en avoir d'autres ciblés prochainement.
Donc il pourrait très probablement y en avoir d'autres. Et puis c'est après tout une méthode que le régime Poutine pratique joyeusement. Hein. Ils ont tué au moins 6 personnes, peut-être 14 en Grande-Bretagne. Depuis 2005,
il y a eu des opposants politiques, des assassinats, donc
on lui donne une dose de sa propre médecine, hein, si j'ose dire. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y a pas mal de gens du régime qui ont des raisons objectives de s'inquiéter à partir du moment en particulier où ils sont sur la liste du procureur de Kiev pour des crimes de guerre. Ce gars-là, il est mort pour crimes de guerre.
Mais quelqu'un pourrait vous dire, il y a des tribunaux internationaux pour ça. Est-ce raisonnable et éthique, d'une certaine façon, d'adopter les méthodes de l'ennemi que l'on dénonce, hein, par ailleurs ?
Eh ben, quand les Britanniques ont demandé aux Russes de voir les gens qu'ils accusaient dans l'affaire Skripal, les Russes ont dit « c'est pas eux » et ils les ont décorés. Donc, c'est un grand bras d'honneur, si vous voulez. Donc, si les Russes disaient d'un coup, ah d'accord, mettons-nous d'accord sur un tribunal, à ce moment-là, je pense que voilà. Mais en attendant, c'est pas l'esprit de la maison non plus. Hein.
Vous êtes du même avis, Joséphine Charon?
Vous savez, on parle d'une éthique de la guerre, mais je pense que la guerre, est par définition, n'est pas éthique. En tout cas, voilà, on peut mettre toutes les règles qu'on veut. À la fin des fins, une guerre est quelque chose de sale, hein, si je puis dire. Donc ça va avec. La difficulté pour les Ukrainiens, c'est que sur le terrain, bien évidemment, ils sont en infériorité numérique et ils sont en difficulté, mais ils multiplient depuis le début de la guerre les coups d'éclat de ce type-là à chaque fois, ce qui montre bien que là où ils sont plus faibles sur la partie terrain, eh bien, néanmoins sur le renseignement, ils sont véritablement...
On va revenir sur le front tout à l'heure, mais Claude Blanche-Maison, rappelez-nous qui était ce général Kirillov, la cible donc.
Bon, il était responsable des armes chimiques, bactériologiques, peut-être un peu nucléaire, mais c'est surtout chimique et bactériologique. Et c'était aussi un activiste propagandiste, puisqu'il s'était exprimé à la télévision pour dire « mais les Ukrainiens sont en train d'avoir des laboratoires d'armes bactériologiques avec les Américains en Ukraine ». Et puis deuxièmement, il avait dit « mais ils sont en train de préparer des appareils qui pourront disséminer des moustiques infectant les soldats russes à grande échelle ». Donc, c'était un grand spécialiste des fake news. D'accord. Et de l'intoxication, évidemment, généralisée. Alors, je pense que... Alors, pour revenir à la question précédente, les attentats ciblés, après tout, tous les pays qui sont en conflit en font. La guerre étant globalisée, il y a plusieurs fronts, et il y a un front des attentats ciblés.
Oui, mais général Yakovlev, quand même, au cœur de Moscou, ce n'est pas rien. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens ont acquis des méthodes quand même très sophistiquées, ou ils se sont fait aider par des pays étrangers? Parce qu'on a bien sûr pensé aux beepers, par exemple, qui ont été utilisés par Israël contre le Hezbollah récemment.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de la guerre secrète, mais ça m'étonnerait beaucoup que les Ukrainiens aient fait appel, et même qu'ils en aient parlé à des amis, même les Américains.
Ah bon ?
D'abord parce qu'ils ne peuvent pas les aider sur des coups pareils, c'est du renseignement humain, c'est de la présence humaine, etc. Et ensuite parce que ça donne un droit de veto à celui à qui vous avez parlé. Parce que si jamais il dit, tu sais, ça va nous compliquer la vie, je ne suis pas d'accord, il suffit qu'il dise, je vais le dire aux Russes que tu prépares, et voilà,
il vous tient.
Le plan est mort. Donc non, tous les pays qui font ça, les Israéliens, les Américains...
Le font chacun dans leur coin.
Ils le font chacun dans leur coin avec leurs propres moyens, dont ils ont une maîtrise totale. Oui.
Ça veut dire quand même, Joséphine Staron, que les Ukrainiens ont des relais encore en Russie aujourd'hui. C'est ce qui nous surprend. On pensait que, voilà, ils n'avaient plus cette capacité d'entrisme, en fait, oui.
Ils l'ont, et puis ils ont des soutiens à la cause ukrainienne en Russie, bien évidemment. Alors, pas massivement. Vous n'aurez pas des milliers de personnes qui vont vouloir aider les Ukrainiens en manifestant ou qui vont le faire de manière ostensible. Mais néanmoins, on le voit dans toutes les opérations depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, des Ukrainiens sur le sol russe, en mer Noire, dans des bases militaires russes, qu'ils ont suffisamment de renseignements.
De complicité russe, alors, vous dites.
Bien sûr, il y a quand même des opposants au régime de Vladimir Poutine.
On a fini par oublier, c'est vrai qu'il pouvait être actif.
Comme dans tout régime, il y a des voix contestataires. Et là, bien évidemment, celles-ci peuvent aussi se servir de la guerre en Ukraine pour affaiblir le régime de Vladimir
Poutine. De l'intérieur. Vous voulez rajouter quelque chose, général, avant Blanche-Maison ?
On venait de le dire, ils ont du ciblage dans la profondeur. Les drones qui ont fait 1000 km pour s'abattre sur des bâtiments particuliers, c'est du ciblage, c'est du renseignement dans la profondeur. Et au fond, tuer quelqu'un avec une trottinette, c'est le même principe qu'avec un drone, à des détails près. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils ont un réseau dans la profondeur. Quelle densité, quelle capacité. Vous voyez, cette équipe qui a fait ça, elle a dû être exfiltrée. Alors, combien leur reste-t-il à Moscou ?
Un a été arrêté, on ne sait pas si c'est le bon. Mais Claude Blanche-Maison, ça veut dire que les services secrets russes, c'est un camouflet aussi pour de n'avoir pas pu anticiper et empêcher cet attentat à la trottinette
mauvais. Et en effet, Poutine l'a reconnu dans sa conférence fleuve d'aujourd'hui. Il a dit, bah oui, on n'a pas vu le coup venir. Puisqu'aujourd'hui, il était un peu en verve. Il avait peut-être pris un euphorisant pour faire ses 4h30 de conférence.
4h30.
C'est quand même pas rien. Et effectivement, il avait l'air très en forme. Et il a dit, mais dans le fond, cette guerre en Ukraine, on aurait dû la commencer plus tôt, on aurait dû mieux s'y préparer. Donc il a fait aveu de faiblesse, et là, en l'occurrence, c'est les services de renseignement russes qui ont manqué à leur devoir. Il y aura peut-être des sanctions.
Il y aura peut-être des décapitations, au sens figuré du terme, à la tête des services secrets.
Mais l'Ouzbek qui a été arrêté, il était certainement pour rien. La preuve, c'est qu'à la télévision, il lisait manifestement sur un prompteur ses aveux.
Ah. Bien sûr, sans l'autocritique. Alors, on va évoquer avec vous, Anna, le fait qu'avant cette attaque spectaculaire, il y a eu un ensemble d'opérations réussies par les services de renseignement ukrainiens.
Oui, retour en arrière en août 2022 avec l'attentat à la voiture piégée qui visait l'idéologue russe ultranationaliste Alexandre Dougin. Et c'est sa fille, Daria Dougina, 30 ans, qui avait été tuée à sa place, à une dizaine de kilomètres de Moscou, lui ayant décidé à la dernière minute de changer de véhicule. Moscou avait immédiatement accusé l'Ukraine, qui avait démenti son implication dans cet attentat. 8 mois plus tard, en avril 2023, le blogueur ultranationaliste Vladlen Tatarsky, proche de la milice russe Wagner, lui trouvait la mort dans un café à Saint-Pétersbourg alors qu'il donnait une conférence. Une participante lui avait remis une statuette à son effigie dans laquelle il y avait un engin explosif. Et là aussi, le Kremlin a accusé l'Ukraine et notamment les agents, je cite, de Navalny. Tout juste un mois après, un autre ultranationaliste russe et écrivain, cette fois-ci Zakhar Prilepine, a été ciblé. Il était en voiture avec sa famille quand elle a explosé, tuant son chauffeur, et lui s'en est sorti avec quelques blessures. Et enfin, la semaine dernière, l'ingénieur Mikhail Chatsky, spécialiste des missiles russes, a été tué par balle dans un parc de Moscou. Claude Blanche-Maison, est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine peut s'inquiéter pour sa sécurité personnelle avec toutes ces attaques?
En tout cas, il n'hésite pas à supprimer les gens qui le gênent. Assez souvent, s'ils ne sont pas trop périlleux pour lui, il les laisse partir à l'étranger. Ceux qui refusent de partir à l'étranger, effectivement, il les exécute, il les élimine physiquement. Je pense qu'il ne risque pas grand-chose.
Lui, Vladimir Poutine.
On a beaucoup,
et pourtant, ça se rapproche, puisque là, cet assassinat, c'était quand même un proche du Kremlin.
Une éventuelle révolution de palais, depuis 3 ans presque que dure cette guerre. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand il a éliminé Patrouchev, qui était pratiquement le numéro 2 du régime, le secrétaire du Conseil national de sécurité, qui a été écarté du Kremlin. Dans ces cas-là, on lui a laissé ses avantages matériels et on lui a prié maintenant de s'occuper de la construction navale. Ce qui n'est pas, évidemment, un poste tout à fait stratégique, alors que c'était l'homme le plus puissant après Poutine, qui était l'interlocuteur du patron de la CIA. Mmh. Le patron de la CIA discutait avec lui pratiquement tous les mois. Poutine a commencé à s'inquiéter, évidemment.
Mais Joséphine Staron, quand même, pour essayer de comprendre cette stratégie ukrainienne là, des assassinats ciblés, qu'est-ce que c'est l'idée? Est-ce que ça peut être de sensibiliser la population russe, tout de même, à la guerre, lui dire, vous voyez, ça peut venir sur votre territoire, vous pensez que ça se passe à la télévision, où vous n'avez pas suffisamment d'informations sur ce que c'est réellement, eh bien, voilà la preuve. Vous êtes en guerre contre nous.
Alors, sensibiliser, je pense que c'est un mot un peu faible. Effrayer, intimider, probablement oui, mais surtout intimider peut-être Vladimir Poutine lui-même. On sait que le président russe, depuis notamment la crise sanitaire, est dans une véritable paranoïa, une forme de bulle paranoïaque dans laquelle il a très peur pour sa sécurité. Donc, vous disiez, est-il en danger? Probablement pas, parce qu'il a une protection qui est assez hors norme, en tout cas, comparé à
d'autres personnes. Mais est-ce qu'il sent peut-être la menace se rapprocher? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'on peut dire qu'il est inquiet?
Alors, je n'en sais rien, mais on peut l'imaginer, vu son dispositif de sécurité, bien sûr, et puis vu aussi le fait que, il y a quand même tout un tas de circonstances aujourd'hui qui ne jouent pas en sa faveur. Cette longue interview de 4h30...
Ce matin, donc?
Ce matin.
Cette allocution.
Il y a un changement de ton. Effectivement, presque un peu plus léger, en tout cas, que l'année dernière, bien plus léger que l'année dernière, plus détendu, mais tout en faisant une forme de mea culpa sur un certain nombre d'éléments.
Sur l'économie, notamment, aussi,
en difficulté. Et en oubliant de mentionner, par contre, un des revers stratégiques, qui est la Syrie.
puisque, récente, puisque...
S'il admet des erreurs du renseignement russe dans le cadre de l'assassinat de ce général, en revanche, il ne dit pas grand-chose du revers stratégique pour les forces armées.
Que représente la chute de Bachar al-Assad.
Oui, et puis surtout, on ne sait pas ce que va devenir, ce que vont devenir les bases militaires russes
de la Méditerranée,
en Syrie, qui sont vraiment les bases arrières de la Russie pour ses opérations en Afrique, notamment, et puis son accès à la Méditerranée. Donc ça, c'est un véritable revers stratégique dont Vladimir Poutine ne parle pas beaucoup.
Oui, mais en même temps, sur le terrain, général Yakovlev, on va voir la carte, bon, ben, les Russes continuent d'avoir une offensive plutôt réussie dans l'est de l'Ukraine. Ils se sont emparés de Kourakov, qui est une de leurs cibles, et ils continuent à faire pression sur les Ukrainiens, et on dit qu'ils sont quand même en position de force. Est-ce que aussi cet assassinat d'un général russe, c'est une manière pour les Ukrainiens de détourner un petit peu l'attention, de dire on est aussi capable de faire des choses, même si sur le front, on est en difficulté?
Je pense que pour le public ukrainien, bon, ils sont contents de ce qui est arrivé à ce général à Moscou, mais ce n'est pas vraiment en rapport avec ça. Votre carte me chagrine un peu parce qu'elle reconnaît la thèse russe sur la Crimée qui est différente de l'Ukraine. Hein. C'est au sens du droit international, la Crimée fait partie de l'Ukraine. Bon, bref. Oui, les Russes sur le terrain, le front avance. Ils avancent. Et le rouleau compresseur russe avance. Il avance à la vitesse d'un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'avant que le rouleau compresseur arrive à Kiev, on va en faire des plateaux à la télévision, vous voyez. Donc ils avancent. Mais surtout, je pense que les deux armées, ukrainiennes comme russes, ont tout mis dans la bataille sur les 6 derniers mois et que les deux sont au bord de l'épuisement.
Elles sont exsangues, l'une et l'autre.
Exsangues, au bord du collapsus, les deux. Tout le monde s'est calibré sur début novembre. Et puis bon, maintenant, il y a un rebond jusqu'au 20 janvier. Mais
janvier, c'est le jour de
l'intronisation
de Donald Trump.
On avait mis la Crimée, territoire occupé par les forces russes actuellement, juste pour être précis. Claude Blanche-Maison, justement, est-ce qu'on est à un moment de bascule, vraiment, entre ces deux forces qui se regardent et qui se disent, bon, ben, on est dans un moment d'épuisement, il va peut-être falloir négocier, on l'a dit plusieurs fois ici même, mais est-ce que là, quelque chose peut se passer?
Bah, je crois que l'explication de ce grand show, de ce one-man show d'aujourd'hui...
Vladimir Poutine,
c'est qu'en fait,
Vladimir
Poutine veut absolument se positionner comme l'interlocuteur de Donald Trump. Et c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Et tout ce qu'on vient de dire va dans ce sens, en réalité. Il dit, je suis l'interlocuteur, naturellement, de celui qui sera le président du pays le plus puissant du monde. Et il attend donc le 20 janvier. Il a dit qu'il était d'ailleurs prêt à parler avec lui avant, pendant et après, qu'il était prêt à le voir n'importe quand. Donc, bien sûr. Mais il sait que cette négociation aura lieu. Il veut cette photographie d'un sommet avec le président des États-Unis d'Amérique, qui se déroulera où, je n'en sais rien, ça dépend aussi de Trump. Ça serait mieux que ça soit en Suisse plutôt qu'au Kremlin, sans doute. Mais il veut cette photo parce que ça rehaussera son statut, évidemment, aux yeux de sa population et aux yeux de ses clients dans les pays voisins.
Alors d'ailleurs, écoutez Donald Trump qui veut un arrêt des combats et qui remet en question même les décisions prises par Joe Biden.
We'll be talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. And certainly not just weeks before I take over. Why would they do that without asking me what I thought? I wouldn't have had them do that. I think that was a big mistake they made.
Joséphine Staron, tout est mûr pour une rencontre, selon vous, entre Poutine, Trump et éventuellement Zelensky?
En tout cas, Donald Trump, depuis des mois, donc bien avant son élection, le dit, il veut mettre fin à la guerre en Ukraine, pas forcément pour des raisons liées à la situation régionale.
Pour être le faiseur de paix,
voilà,
pour se
débarrasser aussi de ce qui grève le budget américain quand même depuis 2 ans et demi. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour ces négociations? Comme le disait le général, chacun est en train d'abattre ses cartes, mais il n'en reste plus beaucoup. La Russie est exsangue de plus en plus d'un point de vue économique, mais aussi sur sa position en Syrie. Ça, il faut le redire, c'est un véritable revers politique, stratégique, militaire et économique pour la Russie.
Mais pourquoi économiquement, alors qu'on avait l'impression, on nous disait finalement ils ont une forme de croissance économique, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on disait ces derniers temps.
Cette croissance, elle est basée sur deux choses. Déjà le fait que la Russie a investi massivement dans son industrie de défense et l'a fait fonctionner jour et nuit, et donc forcément c'est des armes qui sont produites, utilisées également, vendues, etc. Donc il y a quand même un commerce extrêmement avantageux pour l'instant, et aussi parce que la Russie a trouvé des débouchés pour son gaz et ses hydrocarbures suite à la fermeture du marché européen. Sauf que ces débouchés sont beaucoup moins avantageux économiquement sur le moyen et le long terme que ne l'était son partenariat avec les pays de l'Union européenne notamment.
Vous êtes encore plus pessimiste, Général Yakovlev. Vous considérez que ça peut craquer avant Noël?
Oui, alors, avant Noël. Bon, enfin, non, au sens, ça pourrait craquer n'importe quand.
Là, voilà, c'est ça.
Serait plus logique.
Ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice.
Non, c'est dans le grippage, il arrive vers 2025.
Le grippage de l'économie
Parce que leur taux de leur croissance, leur propre chiffre maintenant, c'est au mieux, ils feront 0,5 ou 1% de croissance l'année prochaine.
Quelle est l'inflation?
L'inflation est à 34% sur les données plus réalistes que celles de l'État. Les taux directeurs sont à 21%, ce qui fait que plus personne ne prête d'argent à plus personne. Et ce qui se passe concrètement pour les entreprises, c'est que les entreprises ne payent pas leurs factures maintenant. Donc quand vous ne payez pas la facture parce que vous n'avez pas la trésorerie, eh ben, votre fournisseur, il ne peut pas payer ses factures. Mmh. Et le fournisseur de fournisseurs ne peut pas payer sa facture. Et donc, il y a un moment où ça va cracher. Et quand vous ne pouvez plus payer vos factures, tout le monde s'arrête.
C'est la sécession de témoins.
Et Claude Blanche-Maison, est-ce que le fameux establishment russe pourrait finir par se retourner contre Vladimir Poutine, les oligarques qui se retrouvaient dans une situation économique extrêmement déplorable?
Ils ont peur de tout perdre. Et ceux qui étaient en position de se replier à l'étranger l'ont fait dès le début de la guerre, parce qu'ils avaient suffisamment d'avoir à l'étranger, dans des lieux sûrs, pas en Europe, parce qu'ils risquaient d'être confisqués. Donc ils vont plus loin, ils vont en Asie, Singapour, peut-être même plus loin. Mais les autres risquent de tout perdre. Par conséquent, ils sont obligés de composer avec Poutine. Beaucoup d'entre eux considèrent que cette guerre d'Ukraine est une grande stupidité, ce qu'elle est évidemment, mais ils ne peuvent pas le dire. Et en tout cas, ils ne sont pas en état d'arrêter Poutine. Poutine a mis les choses au point lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a 25 ans. Il a convoqué, moi j'étais à Moscou à ce moment-là, les oligarques les oligarques de Yeltsin à ce moment-là. Il a convoqué en juillet 2000. Il a dit, à partir de maintenant, c'est terminé. Vous ne passez plus vos soirées au Kremlin, les visiteurs du soir qui disaient à Yeltsin ce qu'il fallait faire. La politique, c'est moi. Je ne vous inquiéterai pas sur comment vous avez fait fortune. Il n'y aura pas d'opération. Il a fait ça un peu comme Bonaparte disant aux gens qui avaient fait main basse sur les biens nationaux qu'il n'y aurait pas de recherche en acquisition un petit peu hâtive des fortunes. Je ne vous inquiéterai pas, mais vous ne vous mêlez plus de politique. Tous sont acceptés, sauf trois.
Rapidement, Joséphine Staron, les Européens sont prêts à envoyer des soldats sur place. Emmanuel Macron lui-même l'a dit quand il était en Pologne. Est-ce qu'ils vont un peu vite en besogne où tout le monde maintenant se prépare un cessez-le-feu des soldats en Ukraine, oui, mais quand il était en Pologne avec son homologue.
Tout le monde s'y prépare, mais pas de la même manière. Vous dites que les Européens sont prêts à envoyer des hommes en Ukraine. Non. La France se dit prête. Peut-être que les Britanniques suivront. Les Polonais ont déjà dit qu'ils ne le feraient pas. Les Allemands, aujourd'hui, ne sont pas en situation de le décider. Donc, pour l'instant, on attend encore de voir quelle serait cette force européenne, je mets des guillemets, qui serait capable, effectivement, d'envoyer ou non des hommes et dans quel format? Est-ce que ce sera pour assurer la pérennité d'un cessez-le-feu? En fait, pour quel objectif enverrions-nous des troupes et avec qui quels seraient les alliés? Donc ça, c'est une question qui est discutée quotidiennement en ce moment dans les chancelleries européennes. C'est assez impressionnant, on a vraiment matérialisation de cette question, mais il n'y a aucune réponse pour l'instant formelle.
En tout cas, merci d'avoir exposé autant de questions. C'était passionnant sur ce qui se passera entre l'Ukraine et la Russie et éventuellement le désastre économique pour la Russie. On verra à suivre. Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.